j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je ne connais pas celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Pop en stock. Je m'appelle Hélène Lorrain, ce soir c'est Pop 138. C'est mon grand retour parce que j'étais très occupée durant la session, j'ai dû prendre une petite pause. Et pour mon retour, je me fais plaisir. On va parler ce soir de cheveux, qui est le drame de ma vie, la joie de ma vie, qui est tout ce que j'aime finalement. Et là, je pense que c'est correct pour tout le monde. Tous les micros, je pense, sont corrects. Mon Dieu, c'était la panique, comme toujours. Donc, pour parler de cheveux, j'ai Stéphane Plante, qui est mon collègue à l'équipe numérique de Québécois. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Hélène.
Rachel Hippolyte, une habituée de l'émission, enseignante et curieuse, touche à tout.
Oui.
Ainsi que Nadia Serra-Yoko, une... aussi curieuse.
Hein? Mon micro, est-ce qu'il marche, là?
Ma foi, du
moment. Ah, okay. J'avais joué avec les boutons, je m'en excuserai. Hein? Je suis incorrigible dans ce sens-là.
J'espère que tu ne fais pas ça à Radio-Canada, là, jouer avec les boutons.
Oui.
Surtout mais, à Radio-Canada.
Ben oui, c'est sûr, mais tu comprends bien qu'il évidemment, m'empêche d'en faire trop large. Hein? Fait que ça touche à tout, je pense. J'aime
chargée de cours
cheveux,
et doctorante.
Oui, c'est ça, oui. Numérique.
Génial. Oui, c'est vrai,
c'est
culture vrai, numérique.
C'est vraiment. C'est ce qui m'intéresse, entre autres. On pourrait rajouter Dalida puis les teintures à cheveux.
Dalida.
Oui, c'est vrai.
C'est un bel intérêt quand même.
Oui. Moi, c'est correct quand ça couvre bien. Si jamais je vais à Denis Lévesque, j'espère que c'est ce qu'ils vont dire dans 10 secondes pour me présenter.
All right. On est aussi sur Facebook. En fait, la caméra est...
Là, ah,
on est
sur Facebook, nous autres,
ouais,
là.
Donc,
par là.
Ah oui,
c'est celle-là.
Ben,
oui, c'est celle-là.
J'espère
celle-là
qu'il me pogne un bon angle de temps
Bonjour.
En temps.
On voit ton derrière de tête, oui.
Ah, OK. Moi qui ai une grosse pince dans les cheveux, je te dis que je parle pas pour ma paroisse, je vais me tourner un petit peu comme ça. Je vais tourner un peu de dos, tu sais, comme ça, là, faire un profil vénitien.
Exactement. Oh, profil vénitien, ça va toucher d'ailleurs à ce que tu vas nous raconter plus tard.
Oui, effectivement.
Mais tout d'abord, on va commencer par quelques faits bizarres et drôles sur les cheveux. Qu'est-ce que vous pensez que la couleur la plus commune sur Terre, la couleur de cheveux la plus commune sur Terre, c'est quand même assez facile.
Le brun.
Mais non, c'est le noir. les Asiatiques.
Ah, ben oui, c'est pas bon.
Moi, c'est parce que tu vois, brun, là, je me dis brun foncé, c'est presque noir.
C'est un peu occidental, notre.
Ouais, c'est ça.
Le pire, c'est que, tu sais, moi-même, qui ai les cheveux plutôt noirs foncés, j'aurais dû y penser.
Mais moi, tu sais, je t'aurais mis brun foncé.
Mais c'est brun foncé officiellement, mes cheveux, en fait.
Ben ça, oui. C'est quelque chose qui me fascine, ça. Comment les personnes qui ont les cheveux noirs souvent se font dire brun foncé?
Ben oui, mais c'est parce que si on devait l'atteindre, n'est-ce pas, on devrait prendre un brun foncé. Sans ça, ça serait comme noir, effectivement, le quasiment bleu, puis ça jurerait. Ça serait
non,
pas
mais
beau.
C'est vrai. Tu sais, quand je me faisais des extensions avant, que je me mettais des tresses dans les cheveux, c'était pas tout à fait noir. Ça tirait vraiment plus vers le brun.
Ben oui.
Puis au soleil, ça paraît. Là, j'ai même des reflets brun-rouge. Hein.
Yes. Et là, justement, la couleur Auburn, la couleur la plus rare, c'est roux, avec 1% de la population.
Ben oui.
Si on tout un défaut, n'est-ce pas, génétique qui est arrivé. Hein? C'est quasiment un accident, ça semblerait-il, qui est arrivé qu'on ait des roux.
C'est une drôle de mutation. Lorsque les cheveux sont mouillés, ils peuvent s'étirer jusqu'au tiers de leur longueur, ce qui est un peu comme une espèce de fil d'araignée, finalement.
Ah ouais.
Donc, ce qui fait que les cheveux ont vraiment des propriétés assez extraordinaires, c'est aussi un matériel extrêmement absorbant pour tout ce qui est huile dans l'eau. Donc, si il y a un prochain déversement de pétrole, on peut mettre comme des
plein de cheveux.
Des cheveux dedans, OK.
C'est une bonne idée. C'est toujours comme ça qu'on bloque le bain à la maison. Je pense qu'on pourrait essayer ça avec des déversements de pétrole. Hein?
Une belle
dame. Mais ça a été fait là, une couple d'années.
On
perd entre 40 et 150 cheveux par jour, mais rassurons-nous, on a entre 100 000 et 150 000 cheveux sur le coco.
Oui? Je m'excuse, Hélène, mais est-ce que le nombre de cheveux dépend de la couleur des cheveux?
Oui, tout à fait. Ce sont les roux qui ont le moins épais de cheveux et les blonds qui ont plus épais de cheveux.
Ah ouais?
Les blonds. Oui, ça m'a surpris tout à l'heure quand j'ai lu ça, fait que c'est pour ça que je m'en rappelle. Strictement.
Moi, je suis pas une vraie blonde, hein, je vous le dis tout de suite. Là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo.
On le voit maintenant.
Ben,
c'est
oui,
ça,
c'est
le fun.
Ça. Oui, c'est ça.
La raison pour laquelle on a des cheveux, c'est parce que c'est un isolant thermique, puis on n'a pas de gras sur le coco. Contrairement aux autres parties de notre corps, qu'on a du gras pour nous isoler. Là, c'est un isolant thermique, donc pour garder notre tête au chaud. On perd beaucoup de chaleur par notre tête. Par ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment... On a des poils sur le reste de notre corps, mais pas des cheveux.
Des poils, ça dépend qui, là?
Soyons inclusifs, oui. aussi, un cheveu, je veux dire que lorsqu'il est mouillé, il peut s'étirer du tiers de sa longueur, mais il peut aussi tirer, il peut comme soulever une petite masse de 100 grammes. Et chaque cheveu peut faire ça. Donc, à 100 000 ou 150 000 cheveux sur tête, on pourrait tirer à peu près 2 éléphants, soit 12 tonnes.
Et maintenant, on comprend qu'est-ce qui s'est passé avec le grand Antonio. C'est
bon,
pour ça
que je pensais à ça.
Un incontournable.
Non, mais quand même! Non,
je pensais à ça, puis je te voyais avec tes tresses. Tu peux avoir des petits poids après chacune.
Ça serait malade.
Ça serait ton exercice de la journée.
Oui.
Yes. Ah, mais l'exercice de cou, très intéressant.
Oui, voilà.
Les cheveux poussent entre 0,3 et 0,5 mm par jour, ce qui donne à peu près à la fin de l'année 15 cm. Donc, vous prenez des notes, ladies and gentlemen.
Oui, surtout
si vous
qu'on se laisse pousser les cheveux.
Moi, je me laisse pousser les cheveux en ce moment, oui. C'est... Voilà, je
sais pas pour Stéphane, mais en tout cas, nous, on se laisse pousser les cheveux.
Non, il s'est coupé les cheveux la semaine dernière.
Oui, c'est ça. Ben, il y a deux semaines, oui.
OK, le temps passe.
Hey, c'est très important comme détail.
Hey, non, mais écoute, on a dit qu'on faisait dans le superficiel. On est dans les cheveux aujourd'hui.
C'est pas superficiel, justement. La programmation d'aujourd'hui, c'est un peu aussi pour prouver à quel point les cheveux, c'est quelque chose qui est central à notre identité et qui est très souvent un marqueur d'identité pour tous et chacun, en tant qu'individu, mais aussi en tant que faisant partie de collectivité, de groupe, finalement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très pertinent de parler de cheveux. Voilà. Mais on va faire
À part que c'est ton obsession personnelle.
Complètement. on va faire un petit tour de table aussi avant de commencer le sujet. Quelle est votre chevelure préférée de la culture populaire, mes amis? Moi, je vais le dire tout de suite. Moi, je l'ai trouvé tout à l'heure. C'est de loin Jane Fonda dans Barbarella.
Oh, yes! C'est vraiment un bon choix.
C'est un excellent choix.
Tout petit, mais c'était David Lee Roth de Van Halen.
Oui!
Oui, très
et
bon choix.
Ça, c'était un but à atteindre que j'ai renoncé assez rapidement là, parce que je sais pas, il y a un secret. Ben, il n'y a plus les cheveux longs, mais c'était vraiment dans les vidéos, dans la vidéo Jump de Van Halen.
Il est tellement sexy, ce gars-là.
Les cheveux partout, je le trouvais. Bon, j'ai changé plus tard. Là. Maintenant, ce sera plus Bobby Gillespie, chanteur de Primal Scream. cream.
Ah oui, qui,
il y a peu importe la longueur de ses cheveux, ça y va toujours bien.
Ouais, c'est vrai, ouais. Tout à fait.
Il a du beau cheveux.
Il a du beau cheveux.
Beau
même
cheveux.
Ils sont souvent très gras d'ailleurs, ben dans des clips, ils font un peu exprès. Dans le vidéo Rocks de Primal Scream, il a les cheveux très gras, mais ça y va, c'est super.
Le cheveu gras lui va bien.
Absolument, il y a un beau gras de
ça,
cheveux.
C'est, ouais, c'est particulier.
C'était beau qualificatif.
Oui, je sais. On travaille fort là-dessus.
Vraiment. Ben moi, je parlais tout à l'heure de mon de ma fascination pour le roux quand j'étais petite. Mm-hmm. Je suis vraiment fascinée par le roux, vraiment. Ça a un peu changé, mais pas tant que ça avec les années. J'ai déjà parlé ici de d'Anne à la maison pignon vert. Oui. Et à quel point une des choses qui me fascinait chez Anne, c'est qu'elle était rousse et que elle aimait pas être rousse. Mais moi, j'enviais sa rousseur quand j'étais petite. Donc Fifi
Pedrassier. Je pense qu'on aime tous pas nos... Personnellement, les roux, je pense qu'ils aiment pas leurs cheveux, puis tout le monde envie leurs cheveux.
Ouais.
Ça a l'air d'être universel. Et Nadia?
Ben moi, je dirais ex aequo pour l'élégance Madonna, parce que je dirais depuis ma jeunesse, j'ai porté des rubans, j'ai fait à peu près tout ce qu'elle faisait, je me suis coupé des petits toupettes courts moi-même avec des ciseaux quand le temps est venu. Puis je me disais de plus en plus, je vous entendais parler, puis je pensais, mon Dieu, c'est Dee Snider des Twisted Sisters.
Oui,
avec ses gros cheveux blonds, parce que tantôt, j'ai terminé une réunion en criant « We're not gonna take it ». Et ça m'a fait penser à lui. Tu sais, je veux dire, me semble, là, c'était pour être glam, t'as des cheveux comme lui.
Oh. Et d'ailleurs, moi, j'ai tout le temps dit que Jim, notre valeureux leader ici à Pop en Stock, Jim est une version 21e siècle de Dee Snider. Il manque juste les cheveux.
Faudrait trouver des gros cheveux, oui, je pense.
Dans le fond, il faudrait leur convaincre de, au lieu de se laisser pousser la barbe, comme il y a déjà eu, se laisser pousser le cheveu.
Et de les teindre en blond.
Effectivement.
Bon, voilà, là-dessus, je pourrais le conseiller.
On va commencer par Stéphane. Stéphane, tu veux me parler, justement, on parlait un peu de... Tu parlais de Bobby Gillespie, tu sais, de rock et de cheveux.
Oui, ben c'est
des cheveux.
On associe même les courants musicaux des cheveux. Moi qui ai les cheveux très raides, quand du moment qu'ils sont un peu longs, je me fais dire « Hey, tu dois aimer les Beatles, toi. » Mais c'est vrai, j'aime les Beatles, mais c'est comme ça. J'ai les cheveux de Ringo Starr. Ben, je sais que John Lennon, il s'est défrisé. Donc, quand ils ont
tout
eu la
fait.
Coupe...
Ah oui?
Oui, oui, quand ils ont été conseillés pour adopter cette coupe, vers 63, la coupe traditionnelle.
Le mop top!
Mais ouais, ça, c'est arrivé quand ils ont vraiment eu les cheveux plus longs. Là, c'est vraiment le mop top, qui est une coupe assez difficile à avoir. Même, il y a Johnny Ramone qui l'avait bien, je pense, dans le punk plus tard. Mais c'est une coupe qui est assez difficile à entretenir. Je sais, j'ai essayé ça aussi. Et comme David Lee Roth, j'ai abandonné. Mais c'est vrai, avec les courants musicaux, comme le air metal, les cheveux longs, tout ça, puis... Là, pas de toupette. Il y a la coupe Longueuil qu'on associe plus aux fans de musique. Il y a moins de musiciens que de fans de musique qui ont la coupe Longueuil.
Oui, tout à fait.
Sauf le drummer de Tesla, un groupe dont on a eu l'occasion de parler déjà, qui lui avait une vraie belle coupe Longueuil. Sinon, il y avait des chanteurs populaires comme Richard Marx. Lui, il avait une belle coupe
Longueuil.
Elle était frisée,
un beau mullet,
foisonnante, en expansion.
Et d'ailleurs, pour comme introduire le changement de coupe de cheveux qu'il a fait au début des années 90, quand le mullet a baissé en popularité. Pour l'introduire à ses fans et au monde, il l'a fait dans un vidéoclip qui est probablement son meilleur vidéoclip, Hazard, en fait même sa meilleure toune, où il se coupait les cheveux pour... parce que c'est comme ça, le clip racontait une histoire où lui-même, Richard Marx, jouait le rôle d'un possible meurtrier, là, un gars vraiment bizarre d'un village, puis là, comme sa petite amie, elle meurt, puis là, tout le monde pense que c'est lui, mais non, ce serait pas lui, puis pour comme quitter le village, puis pour partir à nouveau, il se coupe les cheveux lui-même, mais bien sûr, tu sais, il tasse ses cheveux sur ses épaules, puis là, il se relève, puis il est impeccablement coiffé, là, alors que se couper les cheveux soi-même, c'est habituellement
c'est
rarement
un succès, je peux en témoigner.
Non.
T'as-tu essayé ça, toi aussi?
De
te couper les cheveux toi-même?
J'ai essayé ça.
Moi, je me suis coupé le petit toupette tout seul, puis ça faisait comme, à chaque fois, c'était de plus en plus court. À la fin, il était 5 mm de long. Wow.
J'ai essayé, puis ça a été une catastrophe.
On a toujours l'impression qu'on va être super bonne, en plus,
non,
quand on le fait.
Non, ça a été une catastrophe sans nom. Je me suis vengée sur mes poupées.
Ah, moi, je suis même pas capable de me raser. Imaginez, là, sérieux, j'ai de la difficulté avec ça beaucoup. Je suis pas égal encore après 30 ans de rasage. Non, pas 30 ans.
Puis, ben... Il y a plein de courants qu'on peut juste penser, c'est ça, on dit juste punk, puis on a des cheveux ouais, en oui. tête, les coupes de cheveux très, très excentriques, avec
le mohawk,
le disco.
Les années 80. Ouais,
Flock of Seagull, oui, effectivement.
Flock of Seagull, c'est
comme
espèce,
un mohawk qui revire dans le milieu comme une crête, ça fait un tricorne de cheveux.
Mais le gars, c'est un coiffeur, le gars de Flock of Seagull.
Ben oui, mais tu sais, il y avait beaucoup quelque chose axé sur les cheveux. Tu avais un band qui s'appelait Platinum Blonde.
Ah oui, absolument.
Puis sur l'envers de leur album, on voyait qui les coiffait, etc.
Ah oui, ça faisait partie des crédits de l'album.
Ben Porn on Blonde, ouais, aussi, qui était un peu une réponse à Platinum Blonde.
Et même les bébés au Québec,
oui,
ils s'appelaient les Beaux Blonds.
C'est très vrai.
Ils accompagnaient Marc Drouin, mais il y avait les cheveux bleachés.
Et puis on aime ça, le blond, hein.
C'est ah oui, absolument.
C'est comme...
Ben seulement 2% de la population est blonde, donc... Encore une fois, je pense que c'est une mécanique
c'est
de l'envie.
C'est le, deux fois plus que les roux, quand même.
Ouais,
c'est encore plus spécial.
On voit que Rachel est restée marquée quand même.
Excusez, pardon.
C'est quoi, Anne, la maison pignon vert, là, puis Fifi Brin d'acier.
Exact.
Hein?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mais pour retourner au rock, il y a même le début du rock est très influencé par les coupes de cheveux.
Oui.
Elvis,
je me suis entretenu récemment avec un personnificateur d'Elvis qui me disait qu'il va vraiment avec les pochettes voir sa coiffeuse, puis des fois il lui dit ben non, c'est pas le bon côté, le courant de ton cheveu doit aller de l'autre bord. Et Elvis, c'était très étudié dans son cas. Dès ses débuts, il savait ce qu'il faisait avec ses cheveux. Là.
Oui, oui. Et Elvis n'est pas un vrai noir.
Non.
N'est pas un vrai... Ben, désolé, mon Dieu, je ne sais pas comment dire ça. Il est un blond à l'origine, un blond cendré. Il se teignait les cheveux en noir, Elvis.
Ouais. Pour se donner comme plus de caractère.
Oui.
Ben, avec le rockabilly, c'est souvent ça, les cheveux gominés avec la banane, comme
oui,
on dit.
Oui,
souvent, c'était les cheveux...
Le pompadour.
Oui, ouais, c'est les cheveux de teint, parce que, en effet, le blond, c'est associé plus au style Ivy, plus clean, plus propre.
Ouais, ouais.
Parce que les cheveux noirs, gominés comme ça, c'était plus tough.
Oui, on le voit dans Grease.
C'était viril. Oui, dans Grease.
Dans Grease, c'est comme une espèce de réinterprétation des années 50 et de supposé cet âge d'or-là, mais...
Le Dipidi Doux, c'était pas comme ça qu'il appelait ça, l'espèce de crème qui se mettait dans les
cheveux. Oui, oui, oui.
Sandy, là, qui est la belle petite blonde proprette et...
Danny,
merci, j'étais comme... John Travolta.
John Travolta aussi, j'allais dire John, mais...
Hey, j'avais une photo de John Travolta dans ma chambre quand j'étais ado, n'est-ce pas?
À l'époque de Grease?
Oui, mais écoute, je sais pas, j'ai dû l'écouter 25 fois, puis j'avais l'album, là.
Okay,
c'est comme, j'aimais ça un peu.
Un peu?
Ah, puis la méchante aussi dans Grease... La concurrente de Sandy, un peu, elle a les cheveux
noirs.
Rizzo.
Puis qui est d'ailleurs revenue comme actrice, dans une émission récemment. Là, une émission, mon Dieu, c'était pas 24, mais un truc de ce genre-là.
Ah, okay.
Mais ça, dans la fiction aussi, on joue souvent sur la couleur des cheveux. La bonne
fille
a les cheveux blonds.
Ouais.
Et la méchante, même dans Archie, Betty, la petite blonde. Et
Véronica.
Véronica
est ouverte, elle est pas fine, elle est à l'argent.
Ça revient souvent, même dans les soaps américains, on avait ça, les couleurs de cheveux selon les personnages.
Les histoires pour enfants, tu sais, Cruella.
Cruella est blonde. C'est pas
spécial,
blonde,
hein?
Blanche.
Elle est moitié-moitié. Ouais.
C'est vrai, mais c'est
blanche
c'est
et noire.
C'est vrai.
Ouais.
Bref, si on écoute... on va aller en musique tout de suite parce que ça va bien, en fait, avec les questions de rock. En fait, le rock est très associé aux cheveux longs, pour les messieurs en particulier. Et pendant longtemps, aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout, je pense, un problème, une problématique en entreprise ou quoi que ce soit, mais avoir les cheveux longs pour les gars, c'était vraiment un signifiant de rébellion. Mm-hmm.
Ah
de,
oui. Dans les années 60, il y a eu tellement de chansons. Antoine en a parlé.
Oui, c'est Antoine.
Et même, il bitch un peu Johnny Hallyday dans la chanson, et Johnny Hallyday avait répondu avec un 45 tours qui s'appelait « Cheveux longs, idées courtes ». C'était pour un peu discréditer cette jeunesse contestataire, mais finalement, Johnny Hallyday s'est laissé pousser les cheveux
Antoine,
à peu près deux semaines après.
L'espèce de
oui, fun. Antoine, c'était lui. Et il y avait même une parodie d'Antoine, c'était un chanteur qui s'appelait Édouard, mais lui, il avait une perruque qui était littéralement jusqu'aux genoux, et ça s'appelait « Les hallucinations d'Édouard ». C'est une parodie d'Antoine, mais il avait les cheveux très, très longs. Mais il y a eu plein de chansons, même au Québec, des chansons sur les cheveux longs, j'ai les cheveux longs, maintenant je m'affranchis de mes parents, la société me dira pas quoi faire, je me laisse pousser les cheveux. Même le groupe Les Bélairs avait une chanson sur un type qui voit une belle fille, qui pense être une belle fille, mais finalement non.
Comme Aerosmith, dude,
c'est
looks like a lady.
C'est
pas
c'est
fun, ça.
Et c'était une obsession, je pense, parce que les cheveux devenaient longs, puis même France Gall le disait... Nous, les filles, nous aimons les garçons avec les cheveux longs.
Mais c'est une chanson écrite, les paroles, je pense, de Gainsbourg, mais c'est France Gall qui l'a.
Nous ne sommes pas des anges.
Oui, c'est ça. Excellente chanson. Il y a quelqu'un qui a écrit une chanson qui s'appelle Get a Haircut and Get a Real Job. Et là, je parle de George Thorogood. Quel excellent titre de chanson. Donc, coupe-toi les cheveux. Puis, ouais, c'est comme va te couper les cheveux, le pouilleux. Finalement, c'est la version blues, rock blues. Fait qu'on va écouter ça. I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day, with big ambitions of when I could play. My parents taught me what life was about, so I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob, and I should get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job? I even tried that 9-to-5 scene. I told myself that it was all a bad dream. I found a band and some good songs. This chick, she was my number one fan. She took me home to meet her mommy and dad. They took one look at me and said, oh my God, get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. He's got a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job? Get a real job. Why don't you get a real job? Get a real job. All right, donc c'était George Thorogood avec Get a Haircut, Get a Real Job, qui est comme... dans une vie passée, moi, j'ai été chargée de cours pour un cours de ressources humaines, voilà, 3 ans, en 2014, oui, et j'aurais juste dû, comme, présenter cette chanson-là pendant 45 heures. Vous voulez avoir une job, les amis, coupez-vous les cheveux.
C'est ta nouvelle méthode d'enseignement, là, que tu mets au point, c'est ça?
Mm-hmm. Ben non, j'ai fait un bon cours, là, je leur ai parlé de recrutement, là, puis de... d'évaluation de performance là, et toutes ces choses très importantes dans une entreprise.
J'ai les yeux exorbités en arrière.
Non, c'est parce qu'il suffit de travailler en entreprise, de savoir que c'est important, mais que la plupart des gens le font pas quand on est en entreprise. C'est le côté fixation des objectifs. En tout cas, enfin. Je vous dis ça de même. Là, on va parler de cheveux, ça va être plus le fun.
Oui, ça va être plus le fun. Donc, Rachel, tu veux nous parler des cheveux de personnes noires, oui. Et en particulier, en fait, des Afro-Américains. de la colonisation jusque dans les cheveux.
Effectivement, ben tu sais, en fait, on parlait de milieu de travail. C'est un enjeu, justement, les cheveux de naturel en milieu de travail. Mm-hmm. Dans le fin fond, le fait qu'il y avait une entrevue dans le Teen Vogue il n'y a pas si longtemps où est-ce qu'on avait interrogé des femmes, justement, sur le fait de garder le cheveu naturel ou pas en milieu de travail et tout ce que ça comporte, la décision. En général, c'est pour l'entrevue, je vais m'allonger les cheveux, mais quand t'as le pied dans la place, ah, ok, c'est correct de
mais c'est quand même assez hallucinant. Premièrement, faut comme comprendre que c'est un autre enjeu chez les Afro-Américaines en particulier. Juste avoir le cheveu naturel, moi, j'ai jamais pensé me changer les cheveux pour quelconque situation sociale. Des fois, je m'écoiffe, je me mets comme un élastique dedans ou quelque chose, mais...
Oui, ou dans les occasions spéciales, tu sais, tu vas t'arranger.
Ça, on comprend ça, il n'y a pas de problème, mais de faire des traitements chimiques pour passer en société, c'est quelque chose que les blancheurs en particulier, ne connaissons pas du tout, là. C'est comme déjà en partant, faut comme mettre ça au clair.
Oui, tout à fait. Là, j'ai embarqué par rapport au milieu de travail parce qu'on en parlait. Mm-hmm. Là, mais il y a tout un historique qui est relié à ça. Puis d'ailleurs, dès l'esclavage, là, où est-ce que les maîtres appelaient les cheveux comme étant comme de la laine ou comme du papier râpé, et donc par conséquent, qui étaient déjà à ce moment-là dénigrés. Mm-hmm. D'ailleurs, les femmes blanches coupaient les cheveux de leurs esclaves. Femme noire, bien sûr, sous prétexte que ça troublait l'homme blanc. Et ça a été même poussé jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui obligeait les femmes à se couvrir la tête. Il y a eu une loi qui a été passée au 18e siècle qui obligeait les femmes noires à se couvrir la tête. Donc les hairdress, là, les hair scarves.
Les grands foulards.
Qui se portent. Ce qui est fantastique là, avec le fait qu'il y a une caméra, c'est que je peux faire des gestes.
On peut même une caméra que tu sur toi.
Ça va être mal. Ouais, c'est ça, c'est malin.
Voilà.
Mon Dieu, là, je suis comme super gênée. Ouais,
on va remettre à la 2.
Mais voilà. on peut difficilement, quand tout à l'heure tu nous en parlais, on peut difficilement imaginer ça.
Ouais.
Qu'on est vraiment à ce point-là, dit ces cheveux-là sont tellement sexuels, faut les couvrir. Là.
À la fois sexuels et aussi non désirés, parce que les femmes qui étaient des métisses, donc qui étaient avaient plus de privilèges parce que leurs cheveux étaient moins crépus, tu sais.
Mm-hmm.
Et donc, par conséquent, c'est ça. Donc, elles avaient des privilèges de plus dans le troupeau d'esclaves. Oui. C'est affreux de dire ça de même.
Mais aussi,
c'était comme ça qu'on
traitait le monde. Hein?
Mais aussi, le fait qu'aujourd'hui, les turbans puis les foulards de cheveux soient... Que je l'interprète à tout le moins, tu me corrigeras, comme étant vraiment un symbole de fierté noire. Et on voit... Quand je vois une femme qui porte ça, je trouve ça tellement beau. Puis moi, je pensais pas que c'était finalement un symbole de pression.
Oui,
mais ça a été probablement aussi une certaine forme d'appropriation, comme bien des affaires, comme le terme nigger, ou c'est une forme d'appropriation, parce que même à l'époque, alors que ces femmes-là étaient obligées de le mettre et que c'était un symbole d'oppression, elles s'arrangeaient pour que ce soit toujours des très beaux tissus ou de rajouter des décorations dedans pour justement, malgré tout, oui, elles étaient opprimées en le portant, mais ça restait quand même un symbole de fierté, tu sais.
Okay.
Donc, malgré tout. Aussi, quand même, les cheveux ont amené une certaine richesse dans la communauté noire parce que Madame C.G. Walker, qui de son vrai nom, Sarah Breedlove, c'est ça, a créé la première ligne de produits exclusivement pour les cheveux crépus. D'ailleurs, Madame C. Walker, la dite compagnie, existe toujours.
C'est à quelle année que ça a été fondé, à peu près?
Ça a été fondé, de mémoire, dans les années 20.
OK, parfait. Donc, presque 100 ans. Okay.
Oui, presque 100 ans. Et c'est la première femme millionnaire afro-américaine, là. Grâce aux cheveux.
Fait que c'est vraiment ce besoin, Madame Walker, avec ses histoires de
totalement,
cheveux.
Totalement, oui, parce que ce besoin-là existait déjà, je veux dire, dès ces années-là, dès l'entrée des femmes sur le marché du travail un peu plus au sortir de la Première Guerre mondiale. Justement, les femmes noires voulaient avoir des bons
good
cheveux.
Hair. Good
exactement.
Hair.
Good hair. Y a eu un film qui a été dit avec ça, je m'en viens avec ça, oui. Dans pas long.
Et il y a une chanson de Beyoncé.
En plus!
Mm-hmm.
Exactement. Donc, c'est ça. Il y a eu cette ligne de produits-là, justement, qui répondait à un besoin parce que...
Donc, continue ta phrase. Oui. Ou j'ai une question après
oui.
ta phrase.
J'ai eu un moment de... OK. C'est ça, donc, qui avait... ça avait répondu à un besoin réel. Et ensuite est arrivé le relaxer.
C'est ça. Donc, madame... La première ligne de produits qu'elle a faite pour les oui. années 20, c'était quoi en fait? Est-ce que c'était des relaxants de cheveux ou
non.
c'était...
Non, c'était vraiment des shampoings puis des hydratants.
Des huiles que, probablement.
Des huiles
oui,
parce qu'il faut savoir que le cheveu noir de manière naturelle est très sec et que il y a beaucoup d'huiles qui se mêlent de produits hydratants pour garder le cheveu beau.
OK, d'accord.
Donc... l'huile, c'est bien pour le cheveu noir, en fait. Contrairement au fait, tu sais, le cheveu gras est mal perçu chez les Caucasiens. Je vous regarde.
Ouais, moi, je me sens presque pas visée parce que genre, j'ai toujours utilisé des huiles comme ça vu que j'ai le cheveu un petit peu frisotti, si
oui.
je puis dire.
Oui, mais c'est ça. Donc, par rapport à cet hydratant-là, donc dans le cas de Mme C.G. Walker, c'était des produits qui étaient plus des shampoings, des hydratants, des huiles. Tandis que le relaxer, dans le fond, le défrisant, mm-hmm. est arrivé, lui, dans les années 50. Il y avait déjà eu des expérimentations au début du 20e siècle. Mais ça a été plus dans les années 50. En 1954, un dénommé George E. Johnson a fait un relaxer, mais pour les hommes. Et 3 ans plus tard, est arrivé celui pour les femmes. Ce qui est quand même surprenant.
Ouais,
là, on pourrait
ouais,
penser
ouais.
que ça aurait été l'inverse, mais non. Puis ensuite... dans les années 60, avec tout le mouvement du Black Power et du Black is Beautiful, mm-hmm. c'est à ce moment-là que le fist comb est arrivé.
C'est et, quoi un fist comb?
C'est l'espèce de peigne comme fourche.
Ah oui, oui, je me rappelle oui. de ça.
Que tu peux planter, que beaucoup ouais. de gens se plantent dans l'afro. Et si on remarque la forme, ça a été ouais. fait dans les années 70, si on remarque la forme, ça rappelle le point en
ah,
l'air.
D'accord. Moi, je me suis fait déjà dire, oui. En tant que blanche frisée,
oui.
Que c'est le meilleur peigne pour les cheveux
ben,
frisés.
Mais moi, j'en avais un pour les cheveux justement frisés, effectivement.
Absolument, c'est vraiment fantastique pour ça. pour vrai.
j'ai comme on un fait pub.
C'est correct.
T'as comme tout d'un coup eu un moment de doute qui a vraiment paru. Mais en tout cas, pas
non, mais c'est parce que ça dépend de ton cheveu, ça dépend de l'épaisseur de ton cheveu frisé pour si c'est bien ou pas, puis aussi de la grosseur du dit peigne.
Ah, d'accord, oui.
C'est ça. Mm-hmm. C'était pour ça mon doute, j'ai déjà expérimenté la chose, mais bon, je parlerai pas de ma vie personnelle ici ou pas tant.
Pourquoi pas?
Ouais, je pourrais. Le pire, c'est qu'on s'entend que c'est un sujet qui m'interpelle de manière personnelle. Oui, donc, dans le fond, tout ça, il y a eu un retour, puis dans les années récemment, dans les 15-20 dernières, plus les 15 dernières années, il y a eu un retour justement aux cheveux naturels. En fait, les ventes de défrisants, il faut savoir que le défrisant, le relaxer, c'est quand même fait avec de l'hydroxyde de sodium.
C'est des produits très forts.
C'est ultra
ça
dangereux.
Ça doit brûler le cuir chevelu.
Absolument.
Hein? Ouais.
Dans, d'ailleurs, la pauvre Tina.
Tina Turner, oui.
Ça lui est arrivé.
Absolument. Oui, oui, elle porte une perruque tout le temps depuis super longtemps parce que la première fois qu'elle s'est faite un traitement, on parle des années 50, oui. C'est Ike Turner qui obligeait, bien entendu.
Exact.
Elle a perdu tous ses cheveux.
Bon
oui.
Dieu, tout
ça. Et elle porte une perruque. Que depuis.
De très grande qualité. Je trouve qu'elle a des magnifiques cheveux. C'est plate à dire.
Oui.
C'est pas les siens, mais. Wow! Tina Turner.
C'est bien choisi. Ce sont des cheveux bien choisis.
Oui! Excusez. Oui, donc c'est ça. Il faut savoir quand même que le défrisant, c'est quelque chose de super dangereux. Dans le film Good Hair de Chris Black, qui avait fait. Ce film-là date de 2009. Puis en gros, pas le but du film, mais qu'est-ce qui avait motivé de faire le film, c'est qu'il s'était fait dire par sa fille, qui à l'époque avait 3 ans, « Oh mon Dieu, papa, pourquoi je n'ai pas des bons cheveux? » Et ouais. donc, c'est ce qui l'a amené à faire le tour des salons de coiffure.
C'est un documentaire sur les cheveux mm-hmm. des Afro-Américains.
Exactement.
Mm-hmm. Oui. Que je vais voir depuis super longtemps, parce que je ne l'ai pas encore vu.
C'est très drôle. est très instructif. Oui. Et entre autres, dans ce film-là, il s'en va dans une compagnie qui fait ce genre de produit pour oui. les cheveux-là. Et il va voir un scientifique qui lui apprend que, dans le fond, c'est ça, c'est super dangereux. Il met le produit, il met un truc de plastique dans le relaxer et la chose fond.
Oh my god, apprenons des choses sur tes cheveux puis ton puis
exactement
ta peau.
C'est ce qu'il dit, il dit et c'est ça qu'il dit au scientifique qui est un scientifique dans le fond indépendant qui travaille pas dans
un chimiste là,
un ouais, chimiste c'est ça, c'est ça. Mm-hmm. Et lui dit vous savez il y a des gens qui mettent ça sur leurs cheveux. Ah, est-ce que vous recommanderiez cela? Non. Puis et il explique justement que si ça arrive dans ton œil, tu peux être aveugle. God. Mais c'est fou là, tu sais, on te ferme les yeux puis pour en avoir déjà mis justement du relaxer lorsque j'étais des frisants lorsque j'étais adolescente. Plus au début
mais
de l'adolescence.
Mais est-ce que ça fait moins pire un peu quand même quand t'en as mis? C'était-tu un peu plus évolué?
Ben, c'est plus évolué que dans les années 50 avec Tina, là, on s'entend, ouais. Mais ça brûle, là. C'est mm-hmm. pas le fun.
Moi, je pensais que c'était mm-hmm. comme l'envers d'une permanente, mais ça a l'air d'être pas mal plus fort, finalement.
Oui. Mais ça sent mauvais.
Mais c'est une lotion, ça? C'est... Comment t'appliques ça?
Ben, c'est comme
ça?
De la crème, dans le fond, si tu veux. C'est comme une espèce de mixture crémeuse, un
qui
peu.
Qui ressemble un peu à de la teinture pour cheveux.
Qui ressemble un peu à de la teinture pour cheveux, puis là, tu te mets ça. C'est vraiment le fun, une caméra, man.
Tu l'exploites beaucoup.
Oui, c'est ça. Je l'aurais fait naturellement.
Mais ça, tu mets ça mèche par mèche.
Tu mets ça mèche par mèche. Et c'est ça, donc mèche par mèche, dans le cuir chevelu, puis là, tu l'étends un peu. Et là, ça devient super plat, puis là, t'attends que ça pogne,
ouais, c'est ça.
Que ça prenne. Puis à un moment donné, ben, tu laves la chose. Mais tu sais, le temps que ça prenne, ça brûle longtemps.
Oui.
C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Mais tu sais, ce qui est étrange, c'est que c'est ça, dans le film, on voit que pour certaines jeunes filles, c'est comme une espèce de rite initiatique, justement, littéralement le souffrir pour être belle. Mm-hmm. Ben c'est un peu ça, parce que la beauté, encore aujourd'hui, pour beaucoup de femmes afro-américaines, puis noires en général, c'est le cheveu qui ressemble le plus clair possible, le plus droit possible. Oui.
Puis j'ai une question, parce que justement dans le documentaire Good Hair, moi j'apprenais pas mal que, en tout cas dans le teaser, parce que je l'ai pas encore vu, qu'il y a plusieurs femmes afro-américaines qui soit se font un traitement, soit portent une perruque.
Absolument.
Tu sais, comme que leurs cheveux naturels sont cachés la grande majorité du temps.
Oui.
Est-ce que tu penses que depuis 2009, ça a changé ou.
Parce ben, que le fait qu'il y ait des discussions autour, oui, parce que les ça reste une grosse part de marché. Je veux dire, c'est dans les chiffres de 2015, de ce que j'avais vu, c'était 774 millions de dollars qui sont dépensés en perruques, rallonges et défrisants de toutes sortes. Mais les ventes de défrisants comme telles ont diminué de 45%.
Oh, OK.
Ils ont diminué depuis justement 2010. Okay. Mon souvenir est bon. Oui, mes chiffres, là. C'est ça. Donc, les ventes de défrisants continuent à descendre, même si, comme telles, de ce que j'en vois puis de ce que j'observe dans les salons de coiffeur pour les femmes noires, la perruque reste là, tu sais, mm-hmm. malgré tout, tu sais, les gens vont porter des styles protectifs, comme on dit, c'est-à-dire, dans le fond, l'hiver, ce que je n'ai pas fait moi-même, mais l'hiver, justement, vont porter des rallonges pour garder leurs cheveux protégés, mais pendant les moments où est-ce que les cheveux vont devenir de toute façon plus secs, mais que les autres moments de l'année, ben, ils vont porter le cheveu naturel au vent, tu sais. Okay. Mais les cheveux naturels, ça revient en force. C'est de plus en plus valorisé. On le voit dans la culture populaire qu'on en parle plus. Beyoncé avec justement ses clips, Good Hair, dans Formation. C'est super intéressant, ce vidéoclip-là, parce que tu vois, il y a vraiment tout un historique, en fait. Ce qui est super intéressant dans ce clip-là, pour beaucoup de raisons, c'est que c'est un clip qui montre la culture afro-américaine, mais aussi à travers ses cheveux.
Oui.
On voit l'évolution, dans le fond, de la femme dans le sud des États-Unis, un peu bourgeoise, qui va porter justement les coiffures montées, les hairdos, au afro, cornrows, les cheveux collés, puis les afros aussi, puis les afros de toutes les teintes. Mais en même temps, t'as Beyoncé au milieu qui, elle, a les cheveux vraiment plus clairs que toutes ces autres danseuses qui, elles, portent le méga afro super foncé. C'est juste ce vidéoclip-là montre justement toute cette
espèce
fierté.
De hiérarchie.
C'est
aussi,
ça, cette hiérarchie-là. Puis à la fois la fierté de revendiquer cette identité-là tout en l'assumant pas complètement parce que elle-même comme star au milieu de tout ça, ben elle va porter les cheveux plus clairs.
Oui, et elle a la peau plus claire aussi.
Mais oui.
Aussi, c'est ce qui est valorisé. Il y a un certain backlash, bon, je pourrais parler des différents types de cheveux, là.
Oui, un cheveu A3, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vais faire un petit cette typologie du cheveu-là, elle a été inventée par un coiffeur californien. Puis, dans le fond, ça classe les cheveux, du cheveu ondulé au cheveu frisé au cheveu crépu. Le cheveu frisé, c'est le 3, donc t'as A, B, C. Le cheveu ondulé, c'est du 2. Puis le cheveu crépu, c'est du 4. Et là, à partir de là, il y a différents types. Comme à titre d'exemple, je me suis dit, Hélène, étant donné que ça t'intéresserait, étant donné que t'as le cheveu frisé, toi, t'aurais le cheveu plutôt 3A, tu sais. Okay. C'est-à-dire, t'aurais un S assez bien défini, mais assez lâche, genre.
Moi, mon gros problème dans la vie, là.
Ouais, là. On y arrive.
C'est que mes cheveux, ils s'aplatissent, tu sais, comme ils sont super beaux le matin, puis là, je mets comme mon casque de vélo ou ma tuque l'hiver, tu sais, parce que, puis y a pas d'autres saisons, là. Puis là, j'arrive,
en tout cas, 2 semaines au printemps,
c'est
correct.
C'est ça, ouais, mais je prends mon vélo pendant ce temps-là. Puis, j'arrive au bureau, puis tous mes cheveux sont tout aplatis. Fait que j'ai pas le beau S. J'ai le beau S comme quelques minutes le matin.
Oui.
That is all.
Oui. Ben, c'est ça. Si je me fie à la photo de toi que j'ai vue, dans la vie, c'est à peu près ça que t'as comme cheveux, tu sais. Le 3B, c'est plus volumineux, mais avec une plus petite circonférence. D'où le fait que t'es pas là-dedans, parce que pourquoi, voilà. Et le 3C, c'est des cheveux très, très, très frisés, puis que si on mettait la boucle, ce serait la circonférence d'un crayon, à
d'accord,
peu près.
Parfait. Bon.
Ça, c'est mon cheveu là, d'obsession, là, que je trouve vraiment que c'est le fun comme format.
Ouais, oui, exactement. Bon.
Bon.
J'en reviens là-dessus tout à l'heure. Dans le cheveu crépu, le 4A, c'est un cheveu légèrement crépu avec un pattern en S, donc avec un en S, qui est plutôt fragile, mais que c'est plus petit, et donc ça aurait à peu près la circonférence si on le mettait de l'aiguille d'un crochet. Okay.
OK,
le 4B, c'est un truc crépu, mais avec un modèle en Z. Ah. Moi, mon type de cheveux, je parlais du tien tantôt, mon type de cheveux se situe entre 4A et 4B. J'ai des cheveux avec des S et des cheveux avec comme des Z dedans.
Ah, okay.
Le 4C, ça ressemble beaucoup au 4B, donc avec un patron en Z, mais moins défini. Ça se résume pas mal à ça. Par contre, c'est moins fragile que mon type de cheveux à moi parce que le 4A, c'est plus fragile que le 4C. Donc, ça a des avantages pour ça. Puis, c'est quelque chose qui est plus maniable, mais en même temps, qui passe à moins grande définition et moins valorisé. C'est aussi, d'ailleurs, un des backlash, justement. Tu sais, il y a ce mouvement de cheveux naturels qui arrive, mais en même temps, ce que je viens de te dire sur le cheveu moins défini et tout ça, au sein même des communautés noires, il y a un colorisme à contrer. Dans le fond, ce que je disais, le plus droit c'est, le mieux c'est valorisé, le plus clair que c'est, le mieux c'est valorisé. Malgré ça, c'est ça, il y a plusieurs femmes noires qui préféraient avoir le cheveu qui se rapproche plus du 3C, donc du cheveu très bouclé, petit mais très 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 bouclé.
Le petit boucle en tire-bouchon là.
Exactement.
Ah oui.
Exactement, et qui veulent se rapprocher le plus de ça que le cheveu 4C, qui est le cheveu en fait le plus commun.
Okay.
Lui est moins valorisé parce que il a l'air plus sale, parce que c'est justement par sa moins grande définition, il est perçu comme étant moins beau, tu sais. Les tutoriels sur internet se concentrent généralement sur ce genre de cheveux. À la fois les cheveux vaguement bouclés, donc 3C, mais aussi longs. Et faut savoir aussi que le cheveu noir pousse moins vite. Donc, c'est comme si, encore une fois, qu'on s'appropriait ce mouvement-là, cette revendication-là, mais que ça reste dans un certain standard blanc. Puis, je veux aussi un autre backlash sur le milieu de travail, ce que je parlais tantôt.
Ouais.
un des trucs que je veux juste mentionner en réflexion, c'est que ce que je parlais récemment justement de Michelle Obama. Plusieurs ont vu les images de Michelle Obama avec ses cheveux naturels récemment, et elle a été encouragée, mais applaudie pour ça. Mais en même temps, on parle souvent justement du fait que pour bien paraître en entrevue, dès, comme je vous dis, dès les années 20, là, dès que les femmes ont commencé à rentrer sur le marché du travail, c'était comme ça. Est-ce qu'il y aurait eu la même réaction, cette même accueil-là, si comme première dame, elle aurait porté les cheveux naturels? Ça reste pas certain. À mon avis, moi, je suis pas certaine de ça. On peut se poser la question. Alors que, justement, c'est tellement associé, les perruques, les rallonges, les trucs qui se rapprochent plus du cheveu blanc, c'est tellement associé à ça que
est-ce que tu penses que les cornrows font partie, ou les tresses font partie des stratégies possibles pour se rapprocher du cheveu blanc, parce que ça les, quand même, il y a une certaine, ça les raidit à quelque
absolument,
part.
Absolument,
oui. Ben, ça les dompte un peu.
Oui.
Ça les place, là.
Exactement.
Mais c'est drôle parce que j'avais vu, même dans certains milieux de travail, ils discutaient, tu sais, dans les revues américaines, est-ce que c'est correct ou pas, justement, d'avoir le cornrows, d'avoir des tresses, quel type de tresses sont acceptables, etc. Fait qu'il y avait vraiment, en plus de ça, toute une surcodification de la tresse.
Absolument.
Là. Celle qui peut aller au travail, celle qui ne devrait pas être porté au travail.
Ouais.
Incroyable.
Il y a Puis tu sais, ce qui est quand même paradoxal, c'est que, mettons, les dreads, qui ont l'air négligés chez les Noirs, mais vont être plus acceptés chez les Blancs dans certains milieux de travail. Là, je parle pas de tous les milieux de travail, mais que dans certains milieux de travail, c'est plus accepté, tandis que, tu sais, les coiffures typiquement noires, typiquement afro-américaines, sont plus acceptées chez les Blancs que chez les Noirs eux-mêmes, ce qui est un peu étrange.
Incroyable.
Oui, puis, c'est ça. Donc, c'est toutes ces questions-là. Bref, le cheveu, là, chez la communauté noire, c'est vraiment une obsession.
C'est un enjeu très important.
Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est une obsession pour tout le monde, mais ça représente, je pense, toutes les embûches, si tu veux, puis les choses qu'il y a dans la vie des femmes noires puis des hommes noirs, c'est dans le cheveu. Moi, je trouve que le cheveu, c'est toujours l'objet de nos névroses. Puis là, je trouve que vraiment, là, le milieu de travail, être accepté, etc., il y a tout ça qui se reflète, je trouve, dans ce que tu nous as raconté du cheveu. Oui,
mais, mais c'est une obsession qui est à la fois esthétique et historique.
Et même Malcolm X en parlait, même politique. On a pris ça dans le film. Les jeunes gangsters, ils teignaient les cheveux blonds et, justement, ils voulaient les défriser.
Oui.
C'est une façon de se faire accepter.
De se conformer. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, toutes les choses qui te heurtent, qui t'empêchent d'avancer, sont représentées finalement dans cette histoire de cheveux-là là, que tu nous racontes.
Effectivement.
Puis plein aussi de maltraitance qui est reflétée dans ça.
Le fait, ce que je parlais au début, des femmes qui carrément coupaient le cheveu de leurs esclaves.
Prise de
parce
possession,
que...
encore plus.
Exactement.
L'intimité, puis tout ça. Là, parce
exactement.
Je ne veux pas que le monde te touche les cheveux.
Il y a tout aussi cette affaire-là avec le de ne pas toucher les cheveux. Qui est à la fois aussi pour... Il y a des cheveux artificiels, dans le fond, à cause de pas se rendre compte que tu portes des extensions, mais aussi justement par rapport à l'esclavage, puis au fait qu'on touchait les cheveux parce que ça devenait un objet de cirque, quasiment.
Avec les enfants encore aujourd'hui.
Exactement.
Il faut quand même mettre les gens en garde que t'es pas obligé de toucher les cheveux de tous les enfants que tu vois parce que tu veux savoir quelle texture qu'ils ont, là. Un peu de politesse, s'il vous plaît.
D'accord.
C'est cela. On peut-tu se dire les vraies affaires, tu sais? C'est comme. Voulez-vous qu'on parle de blond? Es-tu prête pour ça?
Oui, absolument. Donc, Nadia, tu veux nous parler de toi-même, tes cheveux. Moi, je t'ai connue que tu avais les cheveux roses.
Ensuite, j'ai
vu les cheveux noirs. Là, t'as les cheveux blonds vénitiens.
Ça change beaucoup. Mais en fait, moi, tu disais, les cheveux, ça a toujours été aussi une affaire parce que j'ai les cheveux ni frisés, ni raides. Et quand j'ai les cheveux longs, si je taponne pas énormément, j'ai les cheveux, c'est comme une pyramide, là.
Oh,
c'est juste gros, comme un peu grichou, là. T'sais, fait comme un peu la pointe ici, mais partout répandu. C'est de toute beauté. Alors, ça, c'est merci à mon papy italien qui a le cheveu frisé, là. Probablement, je sais pas quel code tu donnerais, mais c'est petit. Fait que là, donc, moi, j'ai toujours les cheveux rouges comme toi. Ça me fascine. Ma mère est d'origine ukrainienne. Elle avait le cheveu à ce teint des rousses, puis je trouvais ça d'une splendeur. Et avec
le temps, je t'avoue que je me suis renseignée beaucoup sur tout ce qui touchait ce fameux blond vénitien, hein, le blond justement des peintures
entre
de la Renaissance.
Entre le roux et le blond.
Oui, tout à fait, une espèce d'or foncé pour le cheveu. Et là, ce que je trouve, je vous ai trouvé une petite citation là, de Cesare Vecellio, qui était le cousin du Titien, hein, le peintre de la Renaissance. Il dit à Venise, aux heures où le soleil tape le plus fort, les femmes se forcent à brûler sous ses rayons, enduisant leurs cheveux d'un certain élixir de jeunesse. Elles portent des chapeaux en paille dont elles ne gardent que la visière. Donc, un large chapeau pour en enlever le fond, si tu veux. Puis là, on sort les cheveux pour protéger la pâleur de leur visage tout en exposant leur chevelure. Oh. Pourquoi? Parce que quand on est italienne de naissance, pas mixée nécessairement comme moi, on a souvent le cheveu brun très foncé. Hein? Dans la famille, mon frère, tout le monde, à part moi qui retenais plus de ma mère, ont les cheveux très, très foncés. Mmh. Et là, pour avoir ce beau cheveu-là qu'on appelle blond vénitien, il fallait se faire une mixture. On avait un secret de beauté. Alors, à vos calepins, chers amis, si vous avez envie de vous faire des beaux cheveux blonds vénitiens cet été, un bon bocal d'eau, on presse un gros citron là-dedans, on a ramassé notre urine du matin, puis on met quelques bonnes cuillerées. Non, il va généreux, là. Hein? L'urée, ça décolore comme
oui,
il faut. Puis là, on ajoute un peu de safran, puis parfois même d'autres poudres pour les maniaques du lait doré, peut-être du curcuma, allons donc savoir. Et là, vous enduisez votre chevelure de ça, vous la posez justement sur soit un châle ou justement le fameux chapeau de paille, et vous vous installez au soleil et vous attendez.
Jésus!
Ça pâlit le cheveu, effectivement, surtout si vous êtes sous le soleil, là, justement, de Venise ou de l'Italie, mais ça l'assèche aussi énormément. Oh, hein? Fait que là, on se retrouve
moi,
avec...
en train de me dire, là, j'ai tout ça chez nous, je ferais non.
pipi pas mal tout le monde en a aussi à la maison, mais en tout cas, moi, j'aurais pas essayé, j'étais un peu... Mais sauf que ça me rappelle, je sais pas si ça vous rappelle, quand on était ado, toi qui aimes les cheveux roux, t'as peut-être fait ça, on se mettait des décolorants, là, un peu en spray ou autre chose, en vaporisateur.
Ah ben, très simple, hein?
Oui, oui, on s'en allait au soleil.
Peroxyde d'hydrogène mélangé à de l'eau. Oui. Push-push tous les matins. Moi, après comme 3-4 mois, ça, j'ai fait ça pour, comme 10 ans. Je n'étais même pas adolescente. Là, j'avais 26 ans. Là. Puis j'avais les cheveux jaunes.
Oh yes! C'était, oh, c'est wow. Pas tout à fait... Le blond vénitien ne réussissait pas tout à fait là-dedans.
Et puis...
Exactement.
Vous vous imaginez bien hein, que ça a l'air que la religion catholique aimait pas bien ben ça parce qu'il disait qu'il aurait dû rester naturel, hein, qu'une belle femme brune aux yeux bruns c'était tellement mieux. Mais ce que les filles aimaient à cette époque-là, c'était l'idéal de beauté, c'était d'avoir le teint pâle, d'avoir les yeux très foncés avec ces cheveux-là hein, qui nimbaient comme le visage, ça faisait comme de la lumière un peu. C'est pour ça que ça me fait penser à Madonna qui dit toujours que des cheveux blonds, c'est comme une flamme sur la tête, ça attire le visage.
Mais est-ce que ça se peut que c'est influencé? Mais là, mon Dieu, c'est
oui,
far-fetched.
Oui, ça m'a influencé énormément.
Non, 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 que c'est influencé par, et là, c'est far-fetched, par Élisabeth Ire, qui était, selon les, qu'est-ce qu'on raconte, une blonde vénitienne. Anglaise, mais blonde vénitienne.
Je sais pas, mais je peux te dire que de tout temps, là, il y a eu... Écoute, juste avant ça, la Renaissance, les femmes s'épilaient les sourcils, s'épilaient même la ligne de cheveux.
Ah oui, c'est vrai.
Et je pense qu'il y a toujours eu ces choses-là. Puis il y a même des livres, j'ai vu les fameux livres de secrets, qui sont des livres souvent de recettes alchimiques. Mm-hmm. Et dans certains, il paraît qu'il y a une très grande partie de ces secrets-là qui concernent des secrets de beauté. Fait que déjà, la Renaissance, hein, l'alchimie, un peu comme justement avec les recettes des années 20, se vouait finalement à nous aider. Puis les peintres venaient en. Tu sais, je veux dire, quand
Photoshop
on parle. Botticelli puis Titien venaient amplifier ça parce qu'eux, justement, ils représentaient la femme avec le fameux cheveu, justement, doré, Vénus avec la petite taille puis l'œil foncé. Puis il semble que si jamais vous voulez être plus une blonde ou un blond Titien, ben là, ça sera plus roux un peu que le blond vénitien. On sera vraiment plus dans un roux très clair, là, un blond roux, vraiment. Fait que, tandis que là, vraiment, les femmes, à cette époque-là, allaient vraiment dans toutes ces nuances de blond-là, mais on y restait avec l'idée du blond vénitien. Puis, c'est vraiment, il semble que... C'est ça que j'ai trouvé très drôle de voir que l'Église était choquée que les femmes aillent dans le blond. Moi, j'en revenais pas. Et puis, le blond, si on veut vraiment, conclure avec ça, c'est depuis l'Antiquité que c'est perçu comme une espèce de symbole synonyme de beauté. C'est associé à la féminité, à la pureté. Vous remarquerez hein, que les saintes sur les images pieuses ont rarement les cheveux noirs jet avec les gros sourcils, puis les chérubins n'ont pas le cheveu noir frisé non, avec une moustache.
Ils sont plutôt blonds.
Ils sont plutôt blonds, ils sont blonds roux, hein, ça chabrille de partout. Châtain, c'est cela. Puis justement, on parlait des rousses. Hein. Nous, on aime beaucoup le roux. Ben, les superstitions disaient que les rousses avaient un excès de sang, fait qu'ils étaient portés vers le sexe, la bagarre associée à la débauche et à la luxure. Vous apprenez à connaître comme ça Rachel tranquillement. Puis d'ailleurs, le roi Saint-Louis, en 1254, avait dit que pour s'identifier, les prostituées devaient avoir justement une chevelure rousse. Fait que là, le blond vénitien, dans ce contexte-là, c'était le juste milieu. Hein. C'était la chaleur, la blondeur, mais pas trop blond froid. C'était pas le blond froid du Nord, justement. C'était le beau blond hein, qui miroite au soleil.
Miel.
Pas trop cochon non plus. C'est pas roux, là. Tu sais, c'est pas luxuriant trop. Fait que là, vous voyez, c'était un peu tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me demande toujours, avec toutes les stars américaines blondes, on pense à Marilyn Monroe, hein, entre autres, là, la blondeur
les blondes,
platine.
Les blondes de Alfred Hitchcock.
D'Alfred Hitchcock, effectivement.
À Fox News.
Hein? Les blondes à Fox News. On parle de Alfred Hitchcock.
Comment faire, dériver quelque chose? Ça nous arrive avec les blondes de Fox News. Y a-tu des blondes à CNN aussi? Mais en tout cas, j'en vois. Fait que là, c'est bref, oui, effectivement, c'est encore, hein, puis c'est un signe. Hein, tu sais, blondes have more fun. Ouais. Tout ça, il y a tout. Vraiment, on est vraiment resté avec cette idée-là, alors que, comme tu le disais en début d'émission, c'est loin d'être la couleur la plus populaire, mais il semble que beaucoup de femmes ont l'impression, puis je pense que pour les gars aussi, il y a ce feeling-là, quand on est blond, qu'on attire plus l'attention.
Y a, les sondages prouvent tous que pour les couleurs de cheveux de femmes, à tout le moins, il y a encore des perceptions associées aux couleurs de cheveux. Donc, les blondes, effectivement, plus légères, plus le fun. Les brunettes, plus sérieuses, plus intelligentes. Ça me fait tout le temps comme... Hein? Ah, OK. Les rousses, plus sexuelles, oui, vraiment... Ouais, ouais.
Moi, j'essaie d'être une blonde plate, si possible. Tu sais, je veux vraiment aller contre le stéréotype. Je me suis dit, je vais me teindre les cheveux blonds, puis, tu sais, je vais faire des études universitaires, puis je vais être plate.
Ben, les études universitaires, oui, être plate, je suis pas sûre.
Je me demandais sur quoi t'allais me contredire. J'attendais ton verdict avec impatience, dussé-je le dire.
Nadia, tu peux être ce que tu veux, on va t'accepter toujours.
Merci les filles, j'aime ça. Puis merci aussi Stéphane, le gars. Hein, je voulais te laisser du temps, fait que j'ai fait ça vite, Stéphane, pour que tu puisses un peu parler de ton sujet en fin d'émission.
Mais non, il est passé au début.
Il est passé au début,
ça a passé vite. C'est ça, ben excusez, t'es banqué, je pensais que t'avais un autre, tu revenais.
Ouais, c'était moi qui étais assis ici tantôt.
Sérieux, j'ai encore plein d'affaires à dire, si vous voulez. Mon Dieu, qu'aujourd'hui, je suis pas ramassée dans mes affaires.
Il n'y a aucun problème, Nadia. On t'aime comme t'es.
Merci.
Mais moi, j'ai une question. On va finir avec Stéphane. Ah, en fait, c'est quoi la couleur de cheveux la plus funky que vous avez eue? Moi, j'ai déjà été blonde. Blonde jaune.
Ouais, on trouvait
ouais, mais maison. Avant ça, j'étais bleachée.
Si seulement j'avais mis de l'urine dedans. Hein, si seulement que ça aurait mieux viré. Mais
je peux dire, j'ai essayé le prune ardente. Parce que c'était, quand on était dans le grunge un peu au cégep, on se teignait les cheveux avec n'importe quoi. Je pense même qu'on prenait de la peinture pour vêtements. Des fois, on savait pas ce qu'on faisait. Et j'avais essayé ça, mais ça prend pas. Sur mes cheveux, ça à peine des reflets. Mais c'était prune ardente. Je me souviens, c'était ça le nom
prune de la...
Eh bien, après ça, on dirait que les brunes comptent pas pour des prunes. C'est compliqué, cette histoire-là, finalement. Toi, t'as-tu changé de couleur de cheveux?
Ben moi, pas de manière naturelle, mais avec, justement, des tresses. Oui, là. Tu sais, tu peux t'acheter, justement, le cheveu. Puis le plus rouge que j'ai... Dans le fond, j'ai eu... longtemps, je me mettais, justement, des mèches rouges, mais d'un rouge... très, très vif à un rouge plus bourgogne, puis c'est resté dans le rouge plus bourgogne très longtemps pendant que j'ai eu des traits jusqu'au moment où est-ce que, bon, là... Mais je porte le cheveu naturel et je me teins pas.
Moi aussi, c'est...
Moi, comme je vous dis, c'est teint, hein, puis j'ai eu, par exemple, toutes sortes de couleurs de cheveux. Tu dis rouge, j'ai eu, à un moment donné, les cheveux très courts, rouge vif, là, tu sais, genre sorti de secours.
Oh, wow.
Puis je faisais exprès pour porter, tu sais, du bleu vif avec ça. C'était vraiment flash. J'ai eu platine aussi. Et ça, c'était ma phase. C'est dans ce temps-là où on s'est connus. Hélène, j'avais les cheveux platine, puis je les entretenais moi-même au clipper pour me faire des coupes weird. Puis je mettais du rose dedans, oui. Après ça du roux, etc. J'ai vraiment, moi, j'ai vraiment comme essayé plein d'affaires.
On
comme
va mettre
ça.
Les photos sur la page Facebook. Ouais. D'ailleurs, je veux qu'on.
J'ai même acheté. Pas. Écoute, je suis pas capable de me faire évidemment d'extensions, mais j'allais justement dans les épiceries africaines m'acheter des faux cheveux roux oui. pour me faire, tu sais, des grandes tresses avec que je mettais après mes cheveux ou me faire comme des espèces de tresses pour mettre dans les cheveux. Fait que je vais vous dire franchement, j'ai expérimenté plus que mon dû, comme on dit dans le domaine capillaire. Là. J'ai pas lâché souvent.
Donc, on doit... Merci beaucoup de vos témoignages. Merci beaucoup de vos chroniques. On se quitte là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Mon nom est Hélène Lorrain et c'était Pop en stock. Merci.